France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la révolte des bonnets rouges. À l'automne 2013, dans les rues de Bretagne, des dizaines de milliers de manifestants crient leur rejet d'un nouvel impôt, l'écotaxe poids lourd. Cette taxe, imaginée quelques années plus tôt sous la présidence de Nicolas Sarkozy, et selon le principe du pollueur-payeur, devait ponctionner les transports de marchandises par camion pour financer le fret ferroviaire et le bateau, des modes de transport plus écologiques. Votée dans une quasi-unanimité politique en 2009, dans la foulée du Grenelle de l'environnement, l'écotaxe ne se fera finalement jamais appliquer en raison de l'opposition qu'elle suscitera. Et c'est particulièrement en Bretagne que la fronde s'exprimera avec vigueur. Et la colère semble provenir de toutes les couches de la société. Agriculteurs, élus, ouvriers de l'industrie agroalimentaire, tout comme leurs patrons. Et ils obtiennent rapidement gain de cause. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, sous la présidence de François Hollande, cède immédiatement aux exigences des manifestants. Fin octobre, trois jours après la première manifestation d'ampleur, le Premier ministre annonce le report sine die de l'application de l'écotaxe poids lourd. Notre invitée aujourd'hui, Cécile Duflot, aujourd'hui directrice générale de l'ONG Oxfam. Elle était ministre du Logement dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault pendant la crise des bonnets rouges. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Sylvie Fagnard, coordination Franck Cognard, chargée de programme, Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Avril 2016, nous sommes à un an d'une présidentielle qui va bousculer toutes les certitudes politiques. François Hollande n'imagine pas encore qu'il devra jeter l'éponge et qu'il ne pourra pas se présenter pour un second mandat. Pendant ce temps, Emmanuel Macron active ses soutiens, mais il ne s'est pas encore déclaré. En revanche, d'autres ambitions, plus ou moins grandes, s'aiguisent. Le vendredi 8 avril, un homme annonce sa candidature. Il s'en explique dans le journal de 19h de France Inter.
J'ai accepté donc avec plusieurs formations politiques de porter les couleurs régionalistes. Il y a une quinzaine de mouvements ou partis où à peu près toutes les régions sont concernées ou représentées. L'Alsace, le Pays Basque, la Catalogne, les Corses, la Savoie, la Bretagne. Voilà, ça fait beaucoup de citoyens qui ont envie de voir une régionalisation se mettre en place en France. On veut libérer les énergies, faire en sorte qu'il y ait une vraie décentralisation et qu'on mette à mal ce pouvoir jacobin. Le centralisme nous étouffe totalement, hein. Il empêche l'imagination et j'allais dire quasiment toutes les initiatives innovatrices qui permettraient de s'exprimer. En fin de compte, l'État aujourd'hui central uniformise, alors qu'il y a énormément de talents dans les territoires. Je crois que les gens ont envie aujourd'hui d'avoir la capacité d'avoir des leviers dans les régions pour initier des nouvelles politiques et répondre à la priorité des priorités, créer de l'emploi pour les gens.
Christian Troidec, que vous venez d'entendre, est déjà le 20e à annoncer son intention de participer à l'élection Rennes à un an du scrutin de 2017. Pour porter, donc, les couleurs régionalistes et combattre l'emprise néfaste que Paris exercerait sur les autres territoires de France. Si les Girondins de tout poids lui ont demandé d'être la figure de proue de leurs revendications, c'est que Christian Troidec bénéficie d'une petite renommée nationale. Il est depuis 2001 le maire de la ville de Carhaix-Plouguer, dans le Finistère, au cœur de la Bretagne. Élu divers gauche, ses convictions ne sont pas toujours claires, cernées. Mais une chose est certaine à son propos, tant selon ses détracteurs que ses partisans, son vrai drapeau est breton. Quand il déboule à l'automne 2013 sur les plateaux de télé nationale et qu'il commence à se faire connaître, c'est justement pour défendre ce drapeau, le Gwenadou, blanc et noir, aux 11 hermines. Petit, la voix gouailleuse et le clin d'œil facétieux, Christian Troidec alerte sur la survie de sa chère région, assurant que le pouvoir central cherche à l'asphyxier. L'objet de son courroux tonitruant, un nouvel impôt imaginé par Paris, c'est la Bretagne qu'on assassine. Pourtant, cette nouvelle taxe, appelée écotaxe poids lourd, ne doit pas concerner que cette seule région. Et évidemment, ce sont tous les camions circulant sur toutes les routes de France qui devront s'en acquitter. Alors, pour comprendre pourquoi l'opposition s'est cristallisée en Bretagne et comment cette politique écologique initialement ambitieuse est mort-née, il faut retourner quelques années en arrière. Aux prémices de cette volonté de faire payer au transport routier son coût écologique, exprimé ici par Nicolas Sarkozy, président.
Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président Al Gore, Monsieur le Président Barroso. Ma première pensée va à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de ce Grenelle de l'environnement, qui restera comme un moment important dans la prise de conscience par notre société qu'elle ne peut plus vivre dans le gaspillage, qu'elle ne peut plus négliger les conséquences sur l'avenir de la planète de sa façon de vivre, de produire et de consommer.
Nicolas Sarkozy a le sourire des grands jours. Ce 25 octobre 2007, il frétille sous les ors de la salle des fêtes de l'Élysée. Et pour cause, il célèbre l'accomplissement de l'une de ses promesses de campagne, le Grenelle de l'environnement. Depuis des semaines, les réunions se succèdent entre représentants de l'État, ONG, collectivités locales, syndicats de salariés, comme des fédérations patronales. De cette négociation marathon est sortie une série d'engagements au service de la lutte contre le dérèglement climatique. Le 25 octobre, Nicolas Sarkozy prend à témoin de ses bonnes idées écologiques tous les invités de prestige qu'il a conviés. Au premier rang, il y a José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, et pas moins de deux prix Nobel de la paix. L'ex-vice-président américain Al Gore, bien connu pour ses prises de position écologiques, et l'activiste anti-déforestation kényane, Wangari Maathai, surnommée la maman des arbres. Devant ce prestigieux parterre, le nouveau chantre de la cause environnementale tient un discours qui se veut révolutionnaire, dénonçant les conséquences de l'inaction politique.
Notre modèle de croissance est condamné. Pire encore, le maintien de la paix dans le monde est condamné si nous ne faisons rien. Les changements climatiques, nos concitoyens ne doivent pas les réduire à la fonte des neiges sur les pistes de ski. Les changements climatiques, ce sont des centaines de millions de réfugiés climatiques. Les changements climatiques, c'est une accélération des grandes catastrophes, des sécheresses, des inondations, des cyclones. D'une certaine façon, c'est le Darfour, où des millions de pauvres gens sont poussés par la faim et la soif vers d'autres régions où ils entrent en conflit avec des populations qui étaient installées de façon séculaire. Les changements climatiques, ce sont des épidémies nouvelles, ce sont des conflits exacerbés pour accéder à l'eau et à la nourriture.
Voilà pour les grands mots. Vient ensuite un florilège de mesures élaborées au cours de ce Grenelle de l'environnement. Parmi elles, l'engagement numéro 45, la taxation des poids lourds qui transportent des marchandises sur le principe du pollueur-payeur. Il n'y a aucune raison pour que la France accueille tous les camions qui évitent les routes de nos voisins, avance, comme il est évident, le président de la République, qui promet dans le même temps que le produit de cette redevance servira au financement des transports collectifs. Ainsi est lancée l'écotaxe poids lourd, avec le vote de la loi dite Grenelle 1, le 21 octobre 2008. En première lecture, elle emporte une adhésion inédite des députés. 526 voix pour, 4 voix contre. Le ministre en charge du dossier, Jean-Louis Borloo, peut s'enthousiasmer. Aujourd'hui, on peut dire que la magie du Grenelle continue à opérer, déclare-t-il après ce vote, qu'il qualifie d'historique. Il est vrai que l'unanimité politique est totale. Et voilà qui est de bon augure pour cette nouvelle taxe écologique. Mais on le sait, le diable se cache dans les détails. En l'occurrence ici, dans la mise en œuvre concrète d'une telle mesure. Taxer les camions qui empruntent les routes de France, d'accord, 1000 fois d'accord. Mais comment ? Sur le principe, cette écotaxe doit concerner les véhicules de plus de 3,5 tonnes, soit 800 000 véhicules par an, dont 200 000 immatriculés à l'étranger qui circulent sur les routes nationales. Les autoroutes sont exclues du dispositif. Il s'agit d'une redevance kilométrique. On est prélevé en fonction de la longueur des trajets. Entrée en vigueur prévue début 2011. L'État et les collectivités locales devraient en retirer près d'1 milliard de recettes par an. Mais très vite, les lobbies se mobilisent. La Fédération nationale des transporteurs routiers en première ligne. Et elle obtient gain de cause après un lobbying forcené. Un travail de conviction auprès des élus, comme le décrit benoîtement l'un de ses représentants. Les sociétés de transport ne devront pas elles-mêmes s'acquitter de l'écotaxe, non, elles la répercuteront sur les factures de leurs clients. Et voilà que dans l'équation pollueur-payeur, le payeur change. Il s'agira désormais des entreprises productrices de marchandises, de l'industrie agroalimentaire, mais aussi des artisans ou des agriculteurs qui ne vont pas tarder à exprimer leur inquiétude.
Les patrons bretons se mobilisent, eux, contre l'écotaxe. Ils étaient entre 1000 et 2000 à manifester aujourd'hui au péage autoroutier de la Gravelle, en Mayenne. Ils réclament la suppression de cette taxe qu'ils jugent injuste et destructrice d'emploi. L'écotaxe doit s'appliquer à partir de 2011 aux poids lourds de plus de 3 tonnes et demie.
Sous une mélasse de neige fondue en ce début février 2009, il piétine, agitant le drapeau blanc et noir, gilet jaune sur le dos, chapeau rond sur la tête. Un biniou est même de la partie pour accompagner les slogans qu'ils entonnent. La taxe à Borloo, c'est pas rigolo, ça se veut écolo et c'est du pipeau. Tout le folklore a été convoqué. Enfin, à sa frontière bretonne, avec la Mayenne, au péage de la Gravelle, le dernier avant les routes armoricaines, pour être précis. Ensuite, les autoroutes s'effacent pour laisser place dans toute la péninsule à des routes nationales à quatre voies gratuites. Et ce détail compte dans l'allergie bretonne à l'écotaxe. Cette dernière, on l'a vu, ne doit s'appliquer qu'aux camions circulant sur les routes nationales sans péage. Or, en Bretagne, il n'y a que ça. La gratuité des voies automobiles, c'est le fruit de l'histoire mouvementée entre la région réfractaire et la capitale. Et celui qui offre ce cadeau à la Bretagne, c'est Raymond Marcellin, chargé par le général de Gaulle de remettre la France au pas après les grèves et les manifs du mois de mai 1968. Il est nommé le 31 mai ministre de l'Intérieur, il le restera jusqu'à 1974. Dans la foulée de sa nomination place Beauvau, Marcellin, qui est aussi député du Morbihan, annonce un grand plan routier pour la Bretagne. Son but, désenclaver la région. Et en contrepartie de sa position géographique excentrée, elle reçoit l'assurance de la gratuité de ses routes nouvelles. Mais cela ne va pas suffire à éteindre les revendications autonomistes bretonnes. C'est d'ailleurs à Quimper, et ce n'est pas hasard, que le 2 février 1969, le général de Gaulle lance son projet de référendum sur la régionalisation, sa riposte totalement décalée à l'agitation de mai. Référendum perdu d'ailleurs, et qui le conduira à se retirer de la vie politique. Mais, tentative de réponse aux velléités d'autonomie des territoires. Symbole fort dans la nation jacobine qu'est la France, c'est en breton, depuis le balcon de l'hôtel de ville de Quimper, qu'il introduit son discours.
Va gorf, zo d'achet, mes David Hoch, nisi vasperet, vel labus adenaskel, nisi da gaut hev reder abel.
Breton, je vous ai compris, en quelque sorte. 40 ans plus tard, en 2009, la Bretagne regarde toujours son avenir économique avec inquiétude. L'écotaxe poids lourd assombrit les perspectives. Les chefs d'entreprise refont les calculs. Leur chiffre d'affaires va faire les frais de la politique environnementale du gouvernement. En Bretagne plus qu'ailleurs, oui, ils en sont convaincus. Et c'est bien l'argument déployé dans le JT Rennes-Soir par les responsables des entreprises Salvéol, producteur de tomates, et Guyader, un traiteur industriel de Saint-Agathon dans le Finistère.
Chaque jour, une cinquantaine de camions viennent prendre ici livraison de tomates pour les livrer en Bretagne, surtout, mais aussi en France et à l'export. Une taxe de 15 centimes sur chaque kilomètre parcouru, l'idée fait bondir les responsables de l'entreprise.
Une tomate espagnole qui traverse la France arrive en Allemagne sans avoir rien payé, et la tomate qui est produite ici à Brest va payer une écotaxe pour sortir de la région. C'est aberrant.
Les entreprises qui transforment des produits sur plusieurs sites, notamment dans l'agroalimentaire, seraient les plus pénalisées.
Si on prend par exemple un poulet, un transformé, un plat cuisiné, ce produit va subir plusieurs fois la taxe, à commencer par le transport entre le poussin et le poulailler, entre le poulailler ensuite et l'abattoir, entre l'abattoir et l'usine de transformation, éventuellement entre l'usine de transformation et la plateforme logistique.
En d'autres termes, les patrons bretons ont l'impression d'être les dindons de la farce. D'abord, cette nouvelle redevance est vendue comme un moyen de financement des modes alternatifs de transport, plus écologiques. Mais il n'y a aucun projet de ferroutage en Bretagne, ni suffisamment de fleuves navigables pour développer le transport par bateau. Certaines mauvaises langues ne tardent pas à faire remarquer que l'émergence de l'écotaxe coïncide avec la privatisation des sociétés d'autoroutes quelques années auparavant. privatisation, qui a privé l'État de ses ressources, l'argent des péages, qui servait justement à financer les transports plus respectueux de l'environnement. Et puis, l'écotaxe remet en cause le principe de gratuité des routes bretonnes, ce que la région a toujours vu comme un acquis. Pourtant, on ne peut pas dire que le pouvoir central, depuis la capitale, reste sourd aux revendications de la Bretagne. Car cette région y bénéficie de précieux relais. Début 2010, Jean-Louis Borloo promet une sacrée ristourne aux parlementaires bretons qui prennent d'assaut son cabinet. La contribution bretonne à l'écotaxe passerait de 110 millions à 40 millions d'euros. Mais quand le ministre décide de reprendre sa liberté et de quitter le gouvernement de François Fillon à la fin de cette année 2010, eh bien il faut tout recommencer. Et cette fois, c'est directement auprès du Premier ministre que les arguments sont avancés. Avec succès. La ristourne est gravée dans la loi. La Bretagne ne paiera bien que 40% de ce qui était prévu à l'origine.
Sur les vitres teintées s'écrasent nos haleines, chargés du vin d'hier. Nos rions comme baleines, la route est une mer qu'aucun rouleau n'agite, les péages comme des îles balisent notre fuite. Dans un camion dans la plaine dévolue à la station service, dans l'air qui nous saisit, sentons nos os craquer comme nous avons vieilli, comme nous avons roulé, comme nous avons tiré sur nos forces motrices. N'attendez pas, nous ne reviendrons jamais, et triangle à la main, dans le camion teinté, nous boirons tout l'or noir, plutôt que d'arrêter, et passerons sans le voir, dans un feu de forêt.
Aujourd'hui, la révolte des bonnets rouges.
France Inter, affaires sensibles.
Le grand détricotage a commencé. Au passage, les Corses aussi ont eu gain de cause. Eux sont carrément exonérés de l'écotaxe. Le calendrier, quant à lui, s'allonge sans cesse. Courant 2011, le gouvernement annonce que la taxe ne sera effective qu'en 2013. En 2011 toujours, l'opérateur privé chargé de collecter la taxe est enfin choisi. Il s'agit d'un consortium autour de la société italienne Autostrade, dénommée Ecomove. Voilà l'option retenue par l'équipe de François Fillon. Plutôt que d'en charger la Direction Générale des Impôts, c'est une entreprise privée qui sera responsable du système repérant les camions concernés et le kilométrage effectué, puis de recouvrer l'impôt auprès d'eux, qui à leur tour le répercuteront sur leurs clients. Pour cette mission, Ecomove percevra 230 millions d'euros par an. Dans l'esprit des frondeurs, des bretons réfractaires, cette entreprise s'apparente résolument aux fermiers généraux au nid de l'ancien régime, et autant dire qu'ils sont de sinistres mémoires en terre armoricaine. 2012, changement de président et de majorité à l'Assemblée nationale. Le dossier écotaxe suit son cours. Début 2013, Ecomove commence à installer, en jambant les routes nationales, les 170 portiques qui permettront de calculer le montant de l'écotaxe pour chaque camion. En revanche, on reporte à nouveau la date butoir. l'écotaxe n'entrera pas en vigueur le 1er juillet 2013, déjà plus de 2 ans après la date initiale, mais le 1er octobre. L'opposition bretonne, quant à elle, change de mode d'action.
Un portique à terre, c'est l'action choc menée cet après-midi par 400 à 500 manifestants sur la voie express Rennes-Brest au niveau de Guiclan. L'installation bardée de caméras et de capteurs avait été installée il y a quelques mois en vue de la mise en place de l'écotaxe sur les transports routiers. Une idée que refuse depuis des mois la filière agroalimentaire bretonne.
On nous dit qu'on n'est pas compétitif, on nous rajoute une taxe qui va enlever de la compétitivité, bah nous on l'a fait tomber tout simplement pour le symbole. C'est la première étape, ce n'est qu'un début, c'est gentil pour l'instant, et je le répète, le vent vient de l'ouest, donc que Paris fasse attention, parce qu'on va arriver sans tarder.
La destruction de ce portique, en plein cœur de l'été, début août 2013, ne provoque pas beaucoup de réactions. Non, ni de la part d'Ecomouv, la société propriétaire de ces installations, ni le gouvernement. Enfin si. Il annonce un mois plus tard, à la rentrée, et sans même faire référence au portique anéanti, un nouveau décalage de l'entrée en vigueur de l'écotaxe. Elle est désormais prévue au 1er janvier 2014. Un autre portique est saboté le 8 octobre. Le gouvernement est sur les dents. Après plus d'un an de présence au pouvoir, les socialistes savent que le climat n'est pas vraiment à l'instauration de nouvelles taxes. Le ministre des Finances, Pierre Moscovici, n'a-t-il pas mis en garde quelques semaines plus tôt contre le ras-le-bol fiscal des Français? Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, est dépêché dans la péninsule pour panser les angoisses. Le 16 octobre, il y annonce un pacte d'avenir pour la Bretagne, assorti d'une enveloppe de 15 millions d'euros pour la filière agroalimentaire. 10 jours plus tard, le samedi 26 octobre, ce sont 1000 manifestants qui, face à des CRS en masse, tentent de faire tomber le portique de Pont-de-Buis dans le Finistère.
Nouvelle explosion de colère, des anti-écotaxes tout à l'heure dans le Finistère. Projectile contre bombe lacrymogène, 2 manifestants sont blessés, l'un d'entre eux a la main arrachée. Les manifestants veulent démonter ce portique protégé par les forces de l'ordre. Ce portique est destiné à calculer la taxe, c'est le dernier à être encore debout dans le département, pour l'instant.
Si le portique est resté debout, c'est parce qu'il était entouré d'un solide cordon de gendarmes mobiles. Les manifestants s'étaient pourtant donné les moyens, tracteurs pour forcer le passage et chou-fleurs à balancer sur les flics. Là aussi, le Guenadou flotte dans les fumées des lacrymos. Et tout le monde, ou presque, est coiffé d'un bonnet rouge. Derrière cette multiplication de couvre-chefs, pas de hasard, mais une marque de prêt-à-porter du cru, Armor Luxe, bien connu pour ses pulls de laine vierge et ses marinières. L'entreprise en a distribué 900 aux alentours du portique de Pont-de-Buis ce samedi 26 octobre. Il ne s'agit pas de vanter les mérites de l'excellence textile bretonne, non, ces bonnets rouges sont un clin d'œil à l'histoire. Catherine Carlier, journaliste à France 3 Bretagne, en explique la symbolique.
Les bonnets rouges, c'est donc le symbole de la révolte antifiscale sous l'Ancien Régime. Alors, en 1675, à l'époque de Louis XIV, le roi Soleil a un grand train de vie, les guerres coûtent cher, l'argent doit donc rentrer dans les caisses royales, de nouveaux impôts sont créés, notamment celui sur le papier timbré, une taxe sur les actes officiels et sur le tabac à priser. Très rapidement, c'est la gronde, elle commence à Bordeaux, se propage à Nantes, puis à Rennes, et dans la région, il y a une montée en puissance, notamment en Basse-Bretagne. Une révolte paysanne qui a été réprimée de manière impitoyable. Beaucoup de pendaisons, de tortures, de condamnations aux galères. Alors, la révolte des bonnets rouges est restée vraiment ancrée dans la mémoire collective, symbole d'une Bretagne avec ses spécificités et sa détermination, capable vraiment de s'opposer au pouvoir politique central, jugé parfois inique.
Coup de com' réussi pour les opposants à l'écotaxe, désormais rebaptisés les bonnets rouges. Ils donnent alors un sens à leur mouvement. Ils mettent en scène l'élan de toutes les couches de la population, en écho aux jacqueries de l'Ancien Régime, quand la Bretagne se rebellait face au pouvoir central. Et le symbole fait mouche. En cette fin d'octobre, le mouvement occupe désormais toute l'attention médiatique. Le 29, sous la pression des lobbies, MEDEF et FNSEA en tête, et des élus bretons de la majorité, par crainte aussi de la contagion, le Premier ministre annonce la suspension sine die de l'écotaxe. Victoire ? Non. Malgré cette annonce, les opposants ne déposent pas les armes. Ils réclament désormais la suppression pure et simple du nouvel impôt et des mesures pour l'emploi en Bretagne. Le 2 novembre, à Quimper, combien sont-ils à défiler bonnets rouges vissés sur le crâne, drapeau breton au poing ? 15 000 selon les organisateurs, 30 000 selon la police, selon la méthode exaspérante des chiffres mensongers qui accompagnent toutes les manifs. Maintenant, qui sont-ils? Cette question agite les commentaires. C'est un peu la samaritaine de la contestation, on trouve de tout parmi ces bonnets rouges. Les agriculteurs de la FNSEA, mais aussi ceux affiliés à la Confédération Paysanne Locale, les grands boss des fleurons bretons de l'agroalimentaire, mais aussi des petits patrons, des artisans et des ouvriers. Et sous les bannières de FO et de la CGT, les salariés et ex-salariés de Doux, des abattages GAD, de Tilly Sapco, ceux des usines Peugeot, de Rennes. La présence de ces travailleurs, si elle étonne le landerneau médiatique parisien, n'est pourtant pas un mystère. 2013 est une annus horribilis pour l'emploi en Bretagne. Depuis le placement en redressement judiciaire du volailler Doux, le 1er juin 2012, les plans sociaux se succèdent. Cette année-là, ce sont 7000 postes qui sont supprimés dans l'agroalimentaire. Et c'est bien ce marasme économique que dénoncent les manifestants. Et certains prennent la balle au bon.
Bah écoutez, je suis breton. Je suis même morbihanais à 100% de souche, comme disent les Français de fraîche date. Par conséquent, c'est bien normal que je soutienne les Bretons parce que moi, je suis très conscient que le mouvement qui se produit en Bretagne n'est pas seulement lié à l'affaire de l'écotaxe. C'est beaucoup plus profond que cela. C'est une angoisse qui est celle de cette province un peu excentrée, mais qui est celle de toutes les provinces françaises, à la vérité. C'est que le pays est en train de descendre progressivement et que les gens s'angoissent du lendemain, de l'avenir. Et qu'il y ait une révolte populaire contre les formes les plus extérieures de cette pression de l'État, je considère que c'est une chose qui est fallable. Et je la soutiens de toutes mes forces. Je suis breton, je soutiens les Bretons.
Le 8 novembre 2013, Jean-Marie Le Pen, bonnet rouge vissé sur le crâne, donne ainsi son avis sur le mouvement dans son journal de bord diffusé sur sa chaîne YouTube. Quelques jours plus tard, le 11 novembre, des militants d'extrême droite sifflent le président Hollande lors des commémorations de la fin de la Grande Guerre. Eux aussi arborent le couvre-chef Made in Braise. Et au cours de ce même mois de novembre, le journal Minute propose à ses lecteurs un bonnet 100% tricoté en Bretagne en échange d'un abonnement. Carré. Christian Troidec rejette tout soutien de l'extrême droite. Pour cet élu inclassable, de gauche et pro-entreprise, ce n'est pas forcément contradictoire, pas question de laisser la famille Le Pen ramasser les fruits de la colère, non. Selon lui, les bonnets rouges seraient même antidote au Front National. Bien. Mais pour quel résultat? Les patrons ont eu ce qu'ils voulaient avec la fin de l'écotaxe. L'emploi en Bretagne est-il pour autant sauvé? Courant novembre 2013, Christian Troadec et ses comparses du collectif Vivre, Décider et Travailler en Bretagne sont invités à Matignon pour négocier une sortie de crise. L'État octroie 2 milliards d'euros à la région, dont la moitié est réservée au secteur agroalimentaire. Christian Troadec en fait lui-même le bilan dans un documentaire d'Ella Serfontaine consacré à l'écotaxe et diffusé sur France 5 en septembre 2017.
On ne répond qu'une question de fond pour la Bretagne, pour essayer d'apaiser à un moment les Bretons, et puis en faisant comme ça a toujours existé, une sorte de clientélisme, avec 1 milliard ou 2 milliards d'euros de dotations supplémentaires, qui ne sont en fait qu'un recyclage de subventions et d'aides qui avaient déjà été promises à d'autres moments. On fait un peu de mousse autour de cela, et puis on dit maintenant, les Bretons, taisez-vous et acceptez le sort qui va être le vôtre.
Face au bonnet rouge, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault aura donc perdu sur toute la ligne. Il ne sera pas parvenu à répondre à l'angoisse des travailleurs de l'agroalimentaire breton. Et il n'en a pas terminé avec le dossier de l'écotaxe après sa suspension. Car en sous-main, les patrons de Bretagne et d'ailleurs maintiennent leur pression pour sa suppression pure et simple. Et tant pis pour le bilan carbone du secteur des transports de marchandises. En décembre 2013, un député de la majorité est chargé de trouver une solution alternative. Quelques semaines plus tard, en avril 2014, le gouvernement change. François Hollande nomme Manuel Valls au poste de Premier ministre et Ségolène Royal à celui de ministre de l'écologie. Très vite, celle-ci donne le ton de son opinion sur l'écotaxe. Écologie punitive, tranche-t-elle. Ségolène Royal présente tout de même un plan B. L'écotaxe poids lourd devient un péage transit poids lourd, qui ne sera appliqué que sur 4000 km de route nationale contre 15 000 pour l'écotaxe. La recette prévue est, elle, divisée par deux. Mais c'est encore trop. pour les transporteurs routiers qui reviennent dans la danse. Début octobre 2014, leur menace d'une grève nationale fait reculer illico la ministre, qui retire son dispositif avant même qu'il ne parvienne au Parlement. Reste à régler la question du prestataire chargé de collecter l'écotaxe Mornay. Ecomove, donc, société créée pour l'occasion et liée à l'État par un contrat, combien coûterait la résiliation de celui-ci ? Le 10 octobre 2014, au micro de Jean-Jacques Bourdin sur RMC, Ségolène Royal se montre particulièrement floue.
Les indemnités à payer.
Ça, on verra. On va
combien
voir.
800
on
millions d'euros. Vous les paierez ou pas?
Moi, je ne répète pas des chiffres comme ça qui sont lancés sur la table pour empêcher les responsables d'agir.
Des pénalités vont être
on verra,
à payer.
On verra.
Vous ne les paierez pas?
On verra.
Peut-être que l'État ne paiera pas. L'État va voir.
On va voir. J'ai lancé l'expertise.
Les portiques installés. Ils sont installés, ces portiques.
Ils sont installés, ces portiques.
Mais qu'est-ce qu'on va en faire?
On va regarder.
La ministre doit regarder. Mais c'est tout vu. 15 jours à peine après ses réponses lunaires, le gouvernement annonce la résiliation du contrat avec Ecomove. Et comme de bien entendu, l'État en paie le prix fort. Pour compenser cette résiliation, Ecomove obtient des indemnités de 958 millions d'euros. 518 sont versés en 2015, puis l'État s'acquitte d'une soulte de 49 millions par an pendant 9 ans. Et ce n'est pas tout. L'État verse 300 millions aux sous-traitants qui ont fabriqué les boîtiers de repérage à placer dans les camions. Total de la douloureuse, 1 milliard et 200 millions d'euros. C'est autant d'argent perdu pour financer des modes de transport plus respectueux de l'environnement et sans perspective de nouvelles recettes à l'avenir. Alors, pour compenser cette perte sèche, le gouvernement instaure 2 centimes de plus sur le prix du gasoil. Pour tous, particuliers comme professionnels. Comme un prélude à la taxe carbone, bientôt imaginée pour rendre plus coûteuse la consommation de pétrole et là aussi financer des transports collectifs, comme quoi l'histoire se répète. Comme les bonnets rouges ont eu la peau de l'écotaxe, les gilets jaunes auront celle de la taxe carbone. Et en résumé, et en forme de bilan, la part du transport par la route n'a pas baissé en France depuis 15 ans.
France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les bonnets rouges et l'écotaxe. Notre invitée, Cécile Duflot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui directrice générale de l'ONG Oxfam, dont nous dirons un mot tout à l'heure, et vous étiez ministre du logement, alors ministre écologiste du logement dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault pendant la crise des bonnets rouges. Vous étiez ministre issu de la sphère écologique, vous étiez Europe Écologie Les Verts.
C'est ça.
Donc, ça renvoie d'ailleurs à quelque chose qu'on pourrait appliquer à d'autres affaires que celle-là, la difficulté d'être aux affaires quand on porte des idées dans un gouvernement même de gauche, mais adossé aussi aux exigences économiques, la difficulté de pouvoir imposer ces idées.
Ah, c'est une leçon de vie, c'est sûr. Mais, ouais. Mais ça montre aussi la possibilité d'agir, paradoxalement. Parce que, bon, alors, c'est un peu drôle de réécouter tout ce qui s'est passé, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, le vote est quasiment unanime sous la présidence de Nicolas Sarkozy pour mettre en œuvre l'écotaxe poids lourd, qui est, je le redis encore aujourd'hui, une très bonne idée. Comment vous voulez qu'on arrive à faire passer les marchandises sur le rail ou à limiter les déplacements si ça coûte beaucoup et autant moins cher puisque les camions ne financent pas la route alors que quand vous transportez des marchandises par le rail, vous payez. Donc l'idée de l'écotaxe poids lourd, c'était de faire payer le transport routier à son vrai prix. D'ailleurs, tout à l'heure, on entendait un industriel qui disait « Oui, mais alors, il y a les poussins qui vont de là à là, puis on va... » Ben oui, mais justement, c'est ce modèle agro-industriel qui nous emmène dans le mur. Et on est 15 ans après, donc c'est un peu rageant quand même.
Alors, on va revenir aux prémices de la crise. Comment le gouvernement a-t-il réagi donc en août 2013, lors de la destruction du premier portique en Bretagne? Est-ce que ça a été l'alerte rouge, si j'ose dire? Ou est-ce que, bon, voilà, c'est un fait, on verra ce que ça donne?
Mais il y avait, de toute façon, il y avait un sujet hein, autour de l'écotaxe. Il faut quand même dire que ça avait été complètement boutiqué par le gouvernement précédent. Le décret avait été signé, si je ne me trompe pas, juste entre les deux tours de la présidentielle, en disant, et hop, paquet cadeau, vous allez vous débrouiller avec ça. Donc c'est compliqué de gérer un dossier qui a été complètement ficelé par un gouvernement précédent, qui était donc de fait devenu d'opposition. Mais je dois dire que le ministre du Transport de l'époque, Cuvillier, était très engagé et il m'avait bien convaincu parce que quand il y a eu le premier report, vous en avez parlé, on était quelques-uns à tiquer. Il dit non, il m'a dit, je t'assure, je suis déterminé, mais là, il y a quelques 2-3 trucs à régler. Et je voudrais juste te dire que les portiques, c'était des outils de contrôle. En fait, ce qui permettait d'évaluer l'attaque, c'était le GPS qui montrait les trajets. Les portiques, ils servaient juste à contrôler qu'il n'y avait pas des camions, qu'il n'y avait pas de boîtiers qui circulaient sur les routes. C'était ça, leur fonction. Et donc, en fait, le système aurait pu fonctionner sans ces fameux portiques, ouais. Qui étaient pourtant le lieu sur lequel ça s'est focalisé. C'est ça qui est. C'est aussi une leçon rétrospective. Mais au début, il n'y avait pas vraiment d'inquiétude. L'idée, c'est qu'il fallait le faire et tout le monde était vraiment très convaincu que c'était nécessaire.
Oui, alors jusqu'au moment où la suspension de l'écotaxe est annoncée, la grande manif de Quimper n'a pas encore eu lieu. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement a battu en retraite et assez piteusement, finalement ?
Oui, il y a eu un vrai moment. Alors, je pense que c'était l'intensification de la tension avec les bonnets rouges. Moi, j'ai soutenu, j'étais une ministre écologiste, vous l'avez dit, et j'ai soutenu cette suspension. Je me rappelle ce jeune homme qui s'appelait Michael Cueff, je crois, dans mon souvenir, qui a perdu une main. Alors, c'est devenu plus banal, et tristement et horriblement, avec les gilets jaunes, mais là, c'était très choquant. En plus, il avait voulu protéger une famille, c'était une manifestation familiale. Et donc, c'était tellement tendu qu'il fallait faire descendre la pression. Ça, je soutenais cette décision-là. Mais il y avait d'autres options, hein, notamment l'idée de dire, très bien, si vous en voulez pas, on le fait pas en Bretagne, mais vous bénéficiez pas de l'argent. Et ce qu'on n'a pas entendu à ce moment-là, là, vous avez centré les choses autour de la Bretagne, mais tous les présidents de région et les présidents de conseil départementaux de l'Est de la France, où les camions évitaient les routes allemandes ou suisses, eux, ils étaient à fond pour, en disant, nous, on en a besoin, parce qu'en fait, on se retrouve avec les camions et pas l'argent.
Et les Bretons, ou la Bretagne, ou les représentants de la Bretagne, de quelque sphère que ce soit, politique, économique, sociale, est-ce que c'est un lobby puissant, la Bretagne ?
Alors oui, mais vous savez, la puissance d'un lobby, c'est rien tant que le politique décide pas de lui obéir. Et à la limite, la force d'un lobby, ça mesure la force de la décision politique. C'est-à-dire, si les politiques ne servaient plus à rien, en fait, il y aurait pas de lobby. Il y aurait pas besoin de dépenser autant d'argent et autant d'énergie pour peser sur les décisions publiques si elles servaient à rien. Ce qui est certain, c'est que, et ça s'est vu dans d'autres affaires, notamment dans le film récent sur les algues vertes, le poids d'un vrai lobby agro-industriel breton, qui d'ailleurs a aussi contribué à dégrader l'environnement des Bretons eux-mêmes, était très puissant sur les responsables politiques bretons, et notamment sur celui qui était l'ancien président de la région, et qui était à l'époque ministre de la Défense. Et ce qui était assez cocasse dans les réunions du Conseil des ministres, c'est de Jean-Yves Le Drian, qui prenait systématiquement la parole. Normalement, sur un dossier comme l'écotaxe, vous entendez le ministre de l'écologie, c'était Philippe Martin à l'époque, vous entendez le ministre des Transports,
mais rarement la Défense.
Pas forcément le ministre de la Défense. Et c'était le premier qui prenait la parole. Mais vraiment, tout de suite, avant même qu'on ait eu le temps de dire ouf, de façon extrêmement vindicative, et ça s'entend bien dans ce que vous avez présenté. C'est pas tant les Bretons en eux-mêmes. Ça a été très bien marketé avec les bonnets rouges qui ont été distribués d'ailleurs, pour raconter l'histoire de la Bretagne. L'idée, c'était de préserver les gros chargeurs et notamment les gros agro-industriels. La vraie histoire derrière l'abandon de l'écotaxe, c'est ça. Et c'est un temps perdu considérable.
Est-ce qu'il y avait l'idée pour le gouvernement qu'il fallait stopper l'hémorragie au cas où il y aurait une grève des transports? Et on sait à quel point ça perturbe énormément la vie des Français. Ça fait partie des grèves qui perturbent le plus.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à d'autres mobilisations comme les Gilets jaunes ou comme d'autres moments où on sent que c'était sporadique et partout sur le territoire, là, c'était très localisé. Pour une raison assez simple, c'est qu'il y avait un certain nombre de gens qui eux voulaient de l'écotaxe, qui n'étaient que traversés par les camions, dont personne bénéficiait, qui bénéficiaient que de la pollution, éventuellement des embouteillages, mais absolument d'aucune recette. Et puis par ailleurs, tous ceux qui avaient en charge le développement d'autres types de transports, et notamment des transports en commun, savaient à quel point, et on a toujours d'ailleurs besoin d'un financement. Donc c'était un bon système, c'est pour ça aussi que ça avait été approuvé à l'unanimité, que ça avait été développé par un gouvernement de droite, faut quand même le dire, et soutenu ensuite, c'est que c'est un bon système. D'ailleurs, ça existe dans plein d'autres pays en Europe, qui s'en félicitent d'ailleurs.
France Inter. Affaires sensibles.
Cécile Duflo, j'ai envie de vous dire, mais pourquoi ça ne marche pas ? L'écotaxe, la taxe carbone, taxe carbone et les gilets jaunes en réaction, pourquoi ces mesures échouent-elles toujours. Est-ce que ça renvoie au non-consentement à l'impôt ? Oui, on peut faire des choses, mais il ne faut pas que ça passe par l'impôt.
Alors, il y a deux choses différentes. Parce que je pense que l'écotaxe et la taxe poids lourd, c'est vraiment différent.
Ah, allez-y,
l'écotaxe, pourquoi ça n'a pas marché ? Parce qu'il y a eu un moment, un vrai... c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui avait parlé de concours de lâcheté et d'inélégance. Ouais, il y a eu un moment de lâcheté. C'est-à-dire que tout le monde savait que c'était très bien. Et je pense que le moment le plus cocasse et en même temps tellement révélateur, c'est un jour des questions au gouvernement. Donc c'est au pire moment, à octobre 2013. Et il se trouve qu'il n'y a plus de place sur les bancs du gouvernement. Et je suis assise juste devant François Fillon, donc devant la droite, qui hurle et qui se déchaîne contre l'écotaxe, mais de manière très grossière. Et là, je craque, je me retourne et je dis, en regardant François Fillon, je dis, mais vous abusez quand même. C'est vous qui avez construit tout ça. Je dis, c'est comme si moi, je revenais ici dans 3 ans et je disais, c'est qui la dingue qui a fait l'encadrement des loyers ? Et François Fillon me sourit. Et il me dit, elle a raison quand même. Et il fait un petit signe aux autres. C'était ça, c'est-à-dire qu'ils avaient tout fait, y compris ce contrat avec Ecomove. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi il y avait besoin d'externaliser ? Honnêtement, je ne suis pas certaine du tout que c'était nécessaire. Mais ça devenait les plus féroces opposants de l'écotaxe, alors même que c'est eux qui avaient tout fabriqué.
Et ça c'est enterrer la politique que les Français ne supportent pas. Ça.
Ah bah moi, je...
supporte pas.
Je comprends. Je vous assure que sur un certain nombre de sujets, en fait, si on pose les données du problème, on converge vers la solution. Donc, ce n'est pas un hasard si c'est Sarkozy qui a lancé l'écotaxe poids lourd. Parce que voilà, si on veut que le transport routier... diminue, il faut qu'il soit au moins qu'il paye son vrai prix. Ensuite, sur la taxe poids lourd, sur la taxe carbone, c'est différent. Parce que la taxe carbone, si vous utilisez juste un outil, l'outil fiscal, mais pas les autres outils de la puissance publique, l'investissement, et puis l'encadrement, la réglementation, ben en fait, vous mettez les gens dans une nasse. Quand vous avez poussé les gens, parce que le coût du logement est élevé, à habiter loin de l'endroit où ils travaillent, qu'il n'y a pas de transport en commun et qu'ils doivent prendre leur voiture, ben là, oui, ils sont coincés. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Et d'ailleurs, la vérité, c'est que toutes les sociétés de transport, elles s'étaient préparées à l'écotaxe poids lourd, y compris les chargeurs, avaient beaucoup travaillé sur changer la taille des camions qu'ils allaient utiliser, changer leurs règles de transport. Enfin, ils avaient, j'allais dire, maximisé dans l'univers de contraintes que représentait l'écotaxe, qui faisait diminuer finalement le nombre de kilomètres et d'émissions de CO2, parce que c'est ça l'objectif, c'est de faire baisser les émissions de CO2. On a perdu un temps considérable.
Alors, vous parliez tout à l'heure du transport ferroviaire. Les gens se disent, mais bon sang, pourquoi on ne fait pas le ferroutage ? C'est du train, c'est écologique, c'est moins dangereux que le transport routier. En plus, ça a toutes les vertus. Mais pourquoi on le fait pas ? Et les gens ne comprennent pas ça. Et il faut comprendre que les gens ne comprennent pas et qu'ils en veulent aux politiques.
Eh bien, ils ont raison. Mais parce que là, pour le coup, c'est vraiment une décision politique. On est d'ailleurs en train de défendre complètement fret SNCF. Donc, je pense que... quand on ne fait pas payer le transport routier à son vrai prix, c'est la même chose avec le fait que le carbone, que le carburant des avions soit détaxé. Bah forcément, ça coûte plus cher. Et pourquoi c'est anormal que ce soit moins cher pour les voyageurs de prendre l'avion pour aller à Toulouse que de prendre le train, par exemple ? Bah c'est la même chose avec les marchandises. Tant que le transport routier ne coûte pas son vrai prix, c'est ce que ça coûte, y compris en termes d'infrastructure, parce que ces camions, ils ne payent pas pour l'entretien des routes. Mais en plus de ce que ça coûte et de ce que ça va nous coûter en termes de dégâts environnementaux, parce qu'on sait aujourd'hui que ne pas agir contre le dérèglement climatique, ça va coûter beaucoup, beaucoup plus cher, en tournant. Et évidemment, on dit, c'est plus cher, moins souple, etc. Et donc, on ne met pas les camions sur des rails. Mais dans beaucoup de pays, notamment en Suisse, ça existe et ça fonctionne très, très bien. Ouais. Donc, on pourrait le faire. Ce n'est pas du tout une impossibilité technique. C'est vraiment un manque de volonté politique et de tenir. Parce qu'il y a des moments où c'est difficile et il faut tenir. Donc, mon seul regret, c'est de ne pas avoir réussi à convaincre. Mais ce n'est pas faute d'avoir un peu essayé de dire « Ok, on lâche la Bretagne, mais on la fait ailleurs ». Et donc, il y avait un argument qui consistait à dire c'est pas possible, c'est pas légal.
Oui, c'est pas républicain.
Etc. Voilà. Mais on va toucher, vous avez évoqué le débat régionaliste et j'ai été contente d'entendre De Gaulle parler en breton. Mais je pense que peut-être que oui, il aurait fallu prendre le problème par ce bout-là, débrancher la tension en Bretagne qui était très forte, mais pouvoir permettre aux régions qui en avaient besoin et qui avaient besoin de l'argent de le mettre en place tout de suite, au lieu de quoi on a tout abandonné et il reste des portiques qu'on croise de temps en temps sur les routes.
Donc vous dites manque de volonté politique, mais alors peut-être que le rail lui-même porte une responsabilité. Regardez par exemple, c'est pas tout à fait la même chose, mais l'autotrain était une méthode qui existait avant et qui était bonne, puisqu'il s'agissait de mettre une voiture ou une moto sur un train, c'était moins dangereux, c'était plus écologique. Ça ne marche pas parce que la SNCF considère que ça n'est pas rentable. Donc le rail aussi a sa responsabilité, pas que le gouvernement.
Mais la question de la rentabilité, je trouve qu'elle doit être vraiment interrogée au regard de ce que ça coûte maintenant. On le sait, ce que ça coûte, l'impact écologique.
Et, oui.
de, voilà. Et c'est qu'on n'intègre pas ça dans le calcul de ce que ça coûte. On n'intègre pas ce que ça évite comme coût, c'est-à-dire le fait de ne pas émettre de gaz à effet de serre. Mais là aussi, c'est un sujet politique. Pourquoi il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas rentables? Pourquoi les billets entre Paris et Bordeaux coûtent si cher? Parce qu'on a fait un partenariat public-privé pour construire la ligne de train, parce qu'on a décidé qu'il fallait que la SNCF paye des péages très lourds, et que du coup, forcément, ça a un impact sur le prix du billet. Je pense que ce qui se passe dans d'autres pays, avec le fait qu'on puisse voyager en train beaucoup moins cher, avec le fait qu'on accorde, qu'on investit plus d'argent dans le rail, bah, ça montre que ça peut aussi fonctionner. C'est de choisir si on met l'argent, en fait, pour dire les choses, pour construire la 69 ou pour rénover des lignes de train. Bah, c'est un choix politique. Donc l'histoire de l'écotaxe, c'est vraiment de l'essence même de politique. Et c'est passionnant parce que ça, il y a de l'humain, il y a de la manipulation, il y a de l'opération médiatique, il y a du courage ou pas, il y a
du lobbying,
il y a du lobbying et il y a de la technique aussi derrière. Donc c'est vraiment cette histoire, c'est de la pure politique.
Mais quand on est ministre écologiste, vous, et que le gouvernement dit bon, ben, on la fera plus tard et puis on la reporte. Et qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez essayé de vous battre auprès de vos collègues, de protester? Ou est-ce qu'on vous a dit, bon, vous êtes bien gentil, mais enfin, n'est pas première ministre non plus?
Alors, déjà, on ne me disait pas que j'étais bien gentil. Je ne suis pas sûre que j'étais bien gentil. J'étais des fois un peu.
Un peu pas bien gentil.
D'abord, il faut comprendre que quand on est écologiste dans un gouvernement qui n'a pas l'écologie comme cap, bah vous êtes minoritaire. Donc ça, c'était pas une surprise ni une découverte. Mais avant que je parte, parce que l'abandon définitif, il se fait par Ségolène Royal, vous l'avez dit, dans des conditions quand même totalement exotiques, parce que cette affaire aura coûté plus d'un milliard à l'État, sans compter l'absence de recettes. Et puis au final, on a fait payer tout le monde en augmentant le diesel. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui se sont battus contre l'écotaxe poids lourd qui n'auraient pas payé, mais qui auraient dû être payés par un certain nombre d'entreprises, notamment de l'agroalimentaire, bah, finalement, c'est eux qui l'ont payé dans leur voiture. C'est là où vous voyez qu'il y a de la manipulation. C'est-à-dire qu'on a poussé des gens à manifester en leur disant pas que c'est eux finalement qui allaient payer la facture. Mais j'étais plus au gouvernement à ce moment-là, quand le projet a été abandonné. Oui, moi, je suis témoin que Frédéric Cuvier s'est vraiment beaucoup battu comme ministre des Transports, convaincu que c'était faisable, tenable et qu'il fallait le faire.
Alors maintenant, vous êtes directrice générale de l'ONG Oxfam. Dites-moi un mot d'Oxfam. Ce que vous y faites, quels sont vos objectifs?
Oxfam, c'est une ONG qui lutte contre la pauvreté et les inégalités, qui est présente en 90 pays dans le monde. Et notre travail, c'est à la fois de répondre à l'urgence dans les situations humanitaires, d'aider, de soutenir des associations féministes, des projets de développement, et puis aussi d'essayer de faire changer les choses là où se trouve le problème, et notamment d'agir dans les pays du Nord, nous, nos pays, qui sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre et qui accroissent encore aujourd'hui la catastrophe en cours qu'est le changement climatique. Donc c'est pour ça qu'on travaille à la fois de manière très opérationnelle et puis aussi on s'attaque aux causes des problèmes.
Et qu'est-ce que vous retenez de votre passage en politique qui fait partie de votre vie, c'est important hein.
À moi, ce que je retiens, je suis partie déçue, je l'ai dit, avec une vraie forme de désillusion, parce que j'ai cru, sans doute certains derrière leur radio souriront, mais j'ai cru que c'était possible de faire quelque chose avec François Hollande et cette majorité, parce que je pensais, et c'était il y a 15 ans, c'était il y a 10 ans, que c'était vraiment le moment, que c'était absolument nécessaire, qu'il n'y avait pas d'autre choix que l'écologie. Donc j'étais un peu déçue, mais en revanche, je suis partie convaincue que l'action politique est efficace et déterminante et peut faire changer les choses.
Ce sera le mot de la fin, Cécile Duflot. Merci, au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui les Bonnets Rouges, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Théo Delobadère.